20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, un voyage au cœur de l'âme brahmsienne ce soir. Brahms, dont les musiciennes du trio Sora viennent d'enregistrer l'intégrale des trios de ses œuvres qui représentent des jalons essentiels de la vie du compositeur, de sa jeunesse jusqu'à ses dernières années. Et elles seront toutes les trois, les musiciennes du trio Sora, à notre micro tout à l'heure pour en parler. Et puis notre second voyage se fera en Europe autour de la 9e symphonie de Beethoven en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Un changement de nom pour le Royal Opera House, la célèbre institution de Covent Garden à Londres, s'appellera désormais, à compter de septembre prochain, Royal Ballet and Opera. Et cela, nous dit-on, afin de mettre en avant la danse au même niveau que l'opéra, une initiative qui reflèterait la prééminence conquise ces dernières années par la compagnie de ballet, dont les représentations attireraient plus de public. C'est à lire sur le site et l'application de Radio Classique, un article signé Philippe Gault. C'est ce week-end que vous pourrez pousser librement les portes des grandes institutions lyriques françaises. Se tiendra en effet la 17e édition de Tous à l'Opéra, une manifestation parrainée cette année par le danseur étoile Guillaume Diop. Rendez-vous donc de vendredi à dimanche dans les quelques 25 maisons d'opéra qui participent à la manifestation à travers la France. Et vous pourrez ainsi visiter les coulisses de ces maisons, découvrir les différents ateliers qui s'y rattachent et participer gratuitement à de multiples activités, profiter de spectacles conçus en cette année des Jeux Olympiques autour de l'une des grandes valeurs que partagent l'olympisme et l'opéra, à savoir l'esprit d'équipe. La programmation détaillée est à découvrir sur le site Tous à l'Opéra. C'est la Dolce Vita que célèbre le ténor Marco Angioloni dans son album avec les musiciens de l'ensemble Contraste qui vient tout juste de paraître. Un album empli d'insouciance et de nostalgie qui réunit des chansons et des airs d'opérette des années folles et de l'après-guerre et nous fait ainsi voyager entre la France et l'Italie. Chacun de ces morceaux résonne à mon oreille et j'entends encore ma mère et ma grand-mère les fredonner dans cette famille italienne fascinée par Paris, nous dit le chanteur Marco Angioloni qui donnera ce programme en concert le 8 mai, donc mercredi soir au Bal Blomet à Paris.
Passe scampagnanna per tulete, come noi papi ti fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senti a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma si vive whisky in soda, non ti siete disturbati. Qua ballo rock and roll, giochi a baseball, ma i soldi beccamel chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa, ok napolitan. Tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi peccamel chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fa l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me, non ci sta niente a fa, ok napolitan. Tu vuoi fa l'americano, tu vuoi fa l'americano.
Tu vuoi fare l'americano, chanson populaire italienne de Renato Carosone, reprise ici par Marco Angioloni avec les musiciens de l'ensemble Contraste dans cet album qui vient de paraître intitulé La Dolce Vita. Et ils seront en concert mercredi soir au Bal Blomet.
Laure Maison sur Radio Classique.
Ces quatre trios balisent à leur manière le long chemin de vie de Johannes Brahms. Ils sont le reflet de ce qu'il a traversé intérieurement. La fougue de sa jeunesse, l'élan de l'amour, puis les épreuves de la sagesse, la résignation, la nostalgie. Ainsi écrivent les musiciennes du trio Sora dans la préface de leur intégrale des trios de Brahms. Les trois trios avec piano, mais aussi une surprise, un arrangement du trio avec corps. Cela vient de paraître sous le label La Dolce Volta et c'est le trophée Radio Classique de la semaine. Elles sont toutes les trois avec nous, Pauline Chesnay, Fanny Féodoroff et Angèle Le Gaza. Bonsoir à toutes les trois.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
C'est votre deuxième enregistrement, je crois, deuxième enregistrement du trio Sora, encore une intégrale puisque le précédent c'était l'intégrale des trios de Beethoven. C'est justement parce qu'une intégrale vous permet de traverser toute la vie d'un compositeur, donc toutes ces émotions, que vous avez envie de vous lancer dans ce genre d'aventure. Pauline.
Oui, c'est vrai que ça nous plaît en fait de creuser, d'aller vraiment le plus loin possible dans la vie d'un compositeur. C'est vrai que c'est un travail un peu particulier parce qu'on ne fait que ça pendant des mois et on vit Brahms, on dort Brahms, on mange du Brahms aussi à toutes les sauces, mais c'est très enrichissant et je pense que le fait de travailler à la fois son premier trio et son dernier trio en même temps, ça nourrit énormément les œuvres les unes les autres en fait et ça nous apporte beaucoup.
Il y a quelque chose qui est très intéressant justement dans le fait de traverser toutes les étapes de la vie de ce compositeur, c'est qu'à la fin, après des mois, des années de travail, on a l'impression que c'est devenu presque un ami en fait. On vit avec lui tellement que voilà, il fait partie de nous et c'est vraiment très fort.
Oui, je trouve aussi que c'était intéressant de trouver nous-mêmes dans la musique, dans ce voyage avec tous les trios de Brahms.
Le scherzo du premier trio de Brahms par le trio Sora que l'on écoute ce soir sur Radio Classique avec les trois musiciens du trio Sora, elles sont à notre micro. Le premier trio, c'est une œuvre que je crois vous avez jouée lorsque Fanny vous a rejoint, c'est ça, au sein du trio Sora, puisque Fanny, vous êtes arrivée un petit peu plus tard, vous êtes arrivée il y a 2 ans, et c'est autour de ce trio de Brahms que s'est formé le nouveau trio Sora. Angèle.
Oui. Absolument. Alors Brahms est très particulier pour Fanny, puisque c'est aussi ce qui a été le coup de foudre pour la musique de chambre pour elle. Ça a été important pour le trio parce que c'est avec du Brahms que les premières répétitions en 2015 ont eu lieu. Et donc c'est aussi ce qui nous a rassemblés toutes les trois avec Fanny pour nous lancer dans cette aventure de l'intégrale des Brahms.
Donc Fanny, les émotions brahmsiennes vous ont permis de vous souder avec vos deux partenaires, d'entrer dans cette aventure?
Oui, c'était un coup de foudre avec le trio joué de Brahms. Toutes les trois, on a une connexion très forte avec sa musique et on a connecté toutes les trois avec la musique.
Alors ici, c'est le jeune Brahms, plein de fougue, plein de frénésie. C'est le beau jeune homme. Il était très beau d'ailleurs. On voit des portraits de lui, hein, parce qu'on associe Brahms avec la grande barbe blanche. Mais il y a un très beau portrait de lui qui montre ce jeune homme qui, à ce moment-là, rencontre les Schumann. Il est amoureux. On pense à tout cela, Pauline, quand on joue cette
évidemment,
musique.
Oui. Évidemment. Brahms, c'est l'amour. C'est vraiment la... Mais c'est marrant parce que je dis ça. J'étais en train de travailler du Brahms ce matin et ma fille derrière, je l'entends dire un mot. Je me dis, mais c'est pas possible, elle a pas dit ça. Et je me retourne et elle me dit amour. Et je trouve ça tellement touchant et c'est tellement vrai. Et je pense que dès le plus jeune âge, en fait, Brahms, c'est l'amour. C'est la musique de l'amour.
Et cela se concrétise comment, la musique de l'amour?
C'est pas que la fougue, c'est des sentiments tellement intérieurs, c'est tellement de profondeur, de chaleur, ça nous emplit en fait, c'est de la musique qui va du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, c'est vraiment quelque chose de chaud qui coule en nous, je sais pas comment
charnel.
Ouais, c'est vraiment que c'est pas que la fougue, c'est ça, oui. C'est il y a quelque chose de très profond dans sa musique qui touche, je pense, au cœur vraiment tout le monde.
Et puis c'est un jeune musicien qui se cherche encore, qui est, j'imagine, encore marqué par l'héritage beethovenien. Vous qui avez enregistré l'intégrale de Beethoven, vous pensez aussi à Beethoven quand vous jouez le jeune Brahms, Angèle?
Oui, absolument. Brahms est vraiment un fils spirituel de Beethoven. Il reprend les structures beethoveniennes, et l'harmonie, il s'en inspire énormément et il reprend tout avec plus de rondeur, plus de sentiments, encore plus de sentiments, ou en tout cas quelque chose de différent et peut-être encore plus d'amour, comme le disait Pauline.
Alors, vous avez donc joué son intégrale. Ces deux autres trios sont beaucoup plus tardifs. Il attend de longues années avant de se remettre à ce genre. Qu'est-ce qui va changer profondément dans son langage avec la maturité et la vieillesse lorsqu'il se remet à écrire pour le trio, Fanny?
Il me semble qu'il y a plus de distance. C'est plus contrôlé peut-être et plus concise et on entend beaucoup le matériel thématique qui est très dans la tête un peu. C'est peut-être beaucoup dans la tête et moins du cœur.
Ouais. C'est si plus raisonné comme musique.
Raisonné, oui, ouais. C'est ça. Oui. Ouais. Oui, mais c'est peut-être un peu plus difficile pour les gens à comprendre tout parce que c'est beaucoup de choses qui se passent dans le même temps et il faut absolument jouer avec une transparence pour que les gens puissent comprendre tout ce qui se passe.
Même pour nous, c'était plus difficile.
Oui.
Le deuxième trio, particulièrement l'opus 87, était beaucoup plus difficile à mettre en place, à comprendre entre nous. C'est vrai qu'on y a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. On a beaucoup analysé la pièce pour essayer de mieux la comprendre. Et même au niveau de la manière de jouer, des techniques de jeu, on n'était pas du tout dans le même mode que pour le premier trio qui finalement, ça, quelque part, ça sonne tout seul, entre guillemets. Une fois de plus, il y a toujours du travail, il y a toujours beaucoup d'heures de répétition enfin. Derrière. Mais il y avait quelque chose de différent, ouais.
Et alors, vous avez inclus également dans cet enregistrement une rareté, un arrangement du trio Opus 40 qui est écrit à l'origine pour corps, piano et violon. Pourquoi ce choix? C'est votre envie, Angèle, de
J'avoue, je le confesse, c'était mon envie, évidemment suivie par Pauline et Fanny. Alors, il faut savoir que la première édition, Brahms écrit trio pour violon, piano et corps, entre parenthèses, ou violoncelle. Il publie déjà la partition de violoncelle au cas où.
Ouais, oui, mais c'est très peu joué.
Et c'est très peu joué. Et c'est très peu joué. Et je trouve ça fou. Parce qu'il y a aussi un arrangement pour alto qui est encore moins joué. On s'est un peu renseigné. On a regardé un peu les enregistrements dans cette formation. Il y en a vraiment très peu. Donc pour nous, ça pouvait vraiment être une force dans cette intégrale. Et la musique est tellement belle. On ne pouvait pas passer à côté de ça.
Mais du coup, vous jouez exactement la partie de corps. Enfin, est-ce qu'il
y a une adaptation quand même à faire?
Alors,
ou ça tombe
presque,
naturellement sous les
doigts? C'est presque tout le temps exactement la partie du corps, mais il y a quelques endroits où le violoncelle joue alors que le corps se repose. Il y a quelques différences où il met des pids quand le corps ne joue pas, mais c'est quasiment tout le temps pareil, je dirais 90% du temps.
Le premier mouvement du trio Opus 40 de Brahms, trio avec corps remplacé ici par un violoncelle. Le violoncelle d'Angèle Legaza qui est avec nous ce soir sur Radio Classique avec ses deux partenaires du trio Sora, Pauline Chenet et Fanny Féodoroff. Ici, c'est véritablement Brahms proche de la nature. On a l'impression de se promener en forêt quand on joue Pauline, ce trio.
Oui, d'ailleurs, c'est drôle que vous disiez ça parce que quand il a écrit ce thème, il a écrit après avoir eu l'idée de ce thème, donc le thème du premier mouvement du trio pour corps, il a eu l'idée d'écrire ce thème en se promenant dans la forêt. Donc lui-même était en fait en pleine nature quand il y a pensé. Et on peut pas penser à autre chose, évidemment. Ouais.
Mais la nature est un élément important d'inspiration chez Brahms. S'il y a la nature, il y a ces légendes du Nord, il y a également la musique tzigane. Tout cela constitue les principaux ingrédients du langage de Brahms qu'on retrouve dans ces trois trios.
Oui, alors on y a vraiment pensé dès le premier trio. C'est vraiment... On retrouve cette puissance, une force tranquille de la nature dans toutes ses œuvres. On retrouve le langage tzigane, on retrouve tout ça, c'est tellement important. Et si je peux juste ajouter quelque chose qui me semble important pour l'opus 40, c'est le mouvement lent qu'il a aussi écrit le moment où il a perdu sa mère. Et pour nous, c'était vraiment un choc quand on l'a déchiffré toutes les trois. On s'est dit, mais comment c'est possible d'écrire quelque chose d'aussi incroyable ?
Brahms, c'est une écriture très ample. On dit souvent que ce sont des longues phrases, les fameuses longues phrases brahmsiennes. Comment gère-t-on cette écriture brahmsienne, même si elle évolue de la spontanéité du premier trio jusqu'au langage plus tardif, plus contemplatif même de la fin? Qu'est-ce qui caractérise le jeu brahmsien, si on pouvait trouver un terme général,
Pauline? C'est particulier. Je pense que c'est particulier à chaque musicien. Ce que disait Angèle tout à l'heure, il y a quelque chose de charnel dans ta musique, un rapport avec le corps, en fait.
Avec la terre aussi, on a l'impression.
Ouais. On est enraciné, on joue ça, il y a une espèce d'ancrage, de puissance. On se sent puissant, mais sans avoir à casser le piano, quoi, ou les instruments. Enfin, il y a quelque chose d'assez naturel, en fait, dans cette.
C'est une force tranquille, ouais, qui nous envahit de toutes ces vibrations.
Ouais. Et qui nous interroge aussi. Il y a des mystères brahmsiens pour lesquels on se pose beaucoup de questions.
Oui, le final du deuxième trio, il y a toute une partie dans le développement. C'était un mystère un peu pour nous.
Et puis finalement, il y a aussi des passages où on essayait de trouver des réponses très philosophiques, comme souvent quand on fait de la musique classique, on essaye de chercher le plus profond possible. Et puis on s'est dit, en fait, c'est juste la fête de la bière ici, et on va juste profiter et s'amuser un peu.
Il y a aussi ça chez Brahms, les tavernes.
Complètement, oui.
Alors la musique de Brahms, vous allez la redonner en concert. Vous serez notamment le 5 mai à Baden-Baden, donc en Allemagne, là où Brahms a composé son trio avec cor, Opus 40, jouer la musique de Brahms à Baden-Baden sur les terres brahmsiennes. Cela a une saveur particulière, j'imagine. Est-ce qu'en même temps, il y a une petite appréhension?
Un petit peu, mais une petite pression positive. Hein, mais oui, grand honneur de jouer ce trio Opus 40 qu'il a écrit là-bas, à domicile.
Voilà, donc vous jouerez ce trio-là. Oui. Vous serez le 7 mai à la chapelle musicale Reine-Elisabeth. Et puis en France, le 15 mai à la MC de Grenoble, le 25 mai au Quorum de Montpellier, le 12 juin au Bal Blomé où on peut boire de la bière, c'est l'endroit idéal.
C'était l'idée, fêter Brahms avec la bière.
Et alors quel Brahms? Parce que j'imagine que vous n'allez pas faire l'intégrale à chaque concert, vous allez dispatcher les trios.
Oui, on dispatche un peu, mais le 12 juin au Bal Blomé, donc à Paris, ça sera les trois trios, opus 8, opus 87 et opus 101. On avait envie un peu de... qu'on fête vraiment véritablement ensemble, ouais, la
musique. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Bal Blomé, il y a des tables
et un bar
et on peut boire en écoutant de la musique.
Boire et manger, ouais. Musique, c'est parfait. Ouais.
Et après Brahms, quelle sera la prochaine aventure du trio Sora? Vous y pensez déjà?
On va avoir un prochain album, évidemment, mais on n'est pas encore tout à fait sûr. Mais pour l'instant, on profite de cette sortie avec toute la tournée des concerts, mais on y pense.
Oui, c'est agréable de profiter du programme en ayant le CD dans les mains et en partageant ça.
Et alors Fanny, cela fait 2 ans maintenant que vous êtes au sein du trio Sora. Qu'est-ce que cette nouvelle aventure vous apporte?
Oui, c'est arrivé dans un moment très parfait en fait pour moi, parce que j'ai fini mes études et elles m'ont appelée et j'avais vraiment envie pour cette aventure et de déménager à Paris et...
Parce que vous êtes autrichienne, hein?
Oui. Ouais.
Et vous faites l'effort de parler français, merci beaucoup.
Non, je suis désolée.
C'est très touchant.
C'est un peu lent, mais c'était une aventure et c'est toujours une aventure. Ça fait plaisir de m'immerger dans la musique de chambre avec de formidables collègues.
Voilà, donc le trio Sora, l'intégrale des trios de Brahms, avec en plus le trio Opus 40, cela vient de paraître sous le label La Dolce Volta. C'est le trophée Radio Classique, donc nos auditeurs en profitent en ce moment, on se régale, on va se quitter avec quelques notes du troisième trio. Merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous, merci Pauline Chenet, Fanny Féodoroff et Angèle Le Gaza.
Merci. Laure.
Les dernières notes du troisième trio de Brahms par le trio Sora, un nouvel extrait de cette intégrale qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors cette semaine, on fait un tour d'Europe pour célébrer le bicentenaire de la 9e symphonie de Beethoven.
Exactement, bicentenaire. On va faire un petit voyage dans le temps. Nous sommes donc le 7 mai 1824 à Vienne et Ludwig van Beethoven crée sa 9e symphonie. 4 mouvements dont un final révolutionnaire puisqu'il ajoute au timbre de l'orchestre ceux des voix humaines, unies toutes par le souffle épique et un appel à l'idéal et à la fraternité universelle qu'il a puisé chez le poète Schiller, et l'exécution se solde par un triomphe. On raconte que c'est la mezzo-soprano Caroline Unger, qui venait de chanter dans ce final, qui a dû littéralement prendre Beethoven aux épaules pour l'inciter à se retourner face aux spectateurs enthousiastes. Il n'entendait pas l'ovation, puisque à cette époque, il était complètement muré dans cette terrible surdité, et il a donc vu son triomphe à défaut de l'entendre. Et puis depuis, bien sûr, le succès de la 9e n'a fait que se confirmer, l'ode à la joie devenant un véritable tube planétaire, adapté partout dans le monde, dans tous les styles, du plus classique au plus inattendu, voire au plus déjanté parfois. Côté politique, divers régimes, des très libéraux, des autoritaires, voire des tyranniques s'en sont aussi saisis pour en faire leur emblème, avant que notre Union européenne ne le choisisse. C'était en 1985 pour en faire son hymne. Déjà entre les deux guerres, en 1927, lors du centenaire donc de la mort de Beethoven, Romain Rolland, le grand écrivain et musicien, écrivait cette belle phrase, très européenne, « Beethoven est le symbole rayonnant de la réconciliation de l'Europe et de la fraternité humaine ».
Alors Emmanuel, pour fêter ce bicentenaire, Arte a développé une idée originale à découvrir donc le 7 mai.
Exactement, le jour J. Oui, c'était tout naturel bien sûr qu'Arte, qui est cette chaîne européenne de vocation et de conviction, consacre une journée spéciale à cette partition qui changea donc la face de la musique. Voici donc sur nos écrans une promenade dans 4 villes en compagnie de 4 orchestres et de 4 chefs, chacun dirigeant un des mouvements de l'œuvre. Précédé par un documentaire qui reviendra sur l'histoire de la symphonie, nous commencerons donc ce concert à Leipzig avec Andris Nelsons à la baguette pour le premier mouvement aux allures de création du monde. Il se poursuivra chez nous à Paris depuis la Philharmonie sous la direction de Klaus Makelle qui devrait faire danser le scherzo, puis à Milan avec Riccardo Chailly pour le sublime troisième mouvement, l'une des plus belles mélodies jamais écrites, avant bien sûr une dernière étape à Vienne, lieu de la création il y a 200 ans, ville source, pour ce quatrième et dernier mouvement, l'apothéose, par l'Orchestre symphonique de la capitale autrichienne qui sera sous la direction du chef Petr Popalka. Ce concert en 4 lieux par 4 des grandes phalanges d'Europe restera ensuite disponible, si on n'est pas devant sa télévision le 7 mai, 90 jours sur la plateforme d'Arte. Et puis en cette année européenne, la 9e symphonie méritait bien véritablement cet hommage en forme d'appel résolu et optimiste à construire une Europe. Et voilà ce que dit une des parties de l'Ode à la joie, que tous les êtres s'enlacent, ce baiser au monde entier. Et comme Riccardo Chailly a fait une magnifique intégrale des symphonies de Beethoven, dont la 9e, et qu'il va donner le 3e mouvement, on se quitte avec lui.
Quelques notes du troisième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven par Riccardo Chailly et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage en Europe avec Beethoven et à la semaine prochaine. On sera tous le 7 mai devant la télévision pour assister à ce concert assez extraordinaire. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie d'Aviel Kahn, le directeur du Grand Théâtre de Genève, qui nous présentera sa nouvelle saison articulée autour de l'idée des sacrifices. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.